VOA Afrique, les infos, à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. La police de Kaduna, dans le nord du Nigeria, a découvert et secouru plus de 300 garçons de nationalités différentes, dont des mineurs, victimes de tortures et de viols, dans un centre d'enseignement islamique. Un raid mené jeudi soir dans une maison du quartier Rigassa a conduit à la découverte des élèves et étudiants vivant dans des conditions inhumaines et dégradantes sous couvert de leur apprendre le Coran et de les redresser, a expliqué le porte-parole de la police de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo. Le propriétaire de l'établissement et ses 6 assistants ont été arrêtés. Jusqu'à ce 27 septembre, la ville de Lomé, au Togo, vibre au rythme de la semaine de la diplomatie climatique, une manifestation qui présente les actions que le Togo mène en matière de lutte contre le changement climatique et sensibilise la population, notamment les jeunes, sur les dangers de la pollution environnementale, mais aussi l'utilisation anarchique des ressources naturelles. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, est au cœur de l'événement. Dans la capitale togolaise.
La jeunesse et sa participation à l'action pour le climat, tel est le thème 2019 de la semaine de la diplomatie climatique au Togo. Le pays compte sur sa jeunesse pour insuffler du dynamisme à la lutte contre le changement climatique. L'ONG Sciences et Technologies Africaines pour un développement durable, STAD, mise sur les élèves. Rebecca Lelinda, 15 ans, élève en classe de 3e, est père éducatrice.
Quand nous voyons les gens, ils jettent les choses, pour nous, on doit les sensibiliser. Ils puissent savoir que vraiment, les déchets ont vraiment de la valeur. Ils puissent protéger leur environnement pour les descendants futurs.
Le combat du Togo contre le changement climatique est implémenté par le biais du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC. Parmi ces projets, on peut citer celui de la réhabilitation des forêts communautaires. Claude Noutoudien, technicien de mise en œuvre du dit projet.
Ce projet se focalise sur l'utilisation des ressources. Nos communautés sont à 100% agriculteurs, donc il faut quand même leur donner les moyens pour pouvoir utiliser durablement les ressources qu'ils ont à leur disposition. Le changement climatique, les causes sont multiples et l'une des causes phares, c'est la destruction du couvert végétal.
Les arbres abattus sont utilisés le plus souvent en charbon de bois ou en bois de chauffe. L'association Action Jeune Togo a développé des fours et foyers améliorés. Gustave Sourania, directeur exécutif de cette association.
Ce que nous aussi recherchons, c'est l'efficacité dans l'utilisation de la biomasse. Les fours et les foyers améliorés réduisent considérablement l'utilisation de la biomasse. Par exemple, les fours, ça réduit jusqu'à 26% de la consommation en termes de charbon de bois. Donc c'est ça notre objectif, réduire l'utilisation du bois et du charbon de bois.
La lutte contre le changement climatique a pour finalité le développement durable et l'amélioration des conditions de vie des populations, soutient Afelou Bareramna. Il est le coordonnateur du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique.
En termes de développement durable, on ne fait plus de la foresterie pour la foresterie. On ne lutte plus contre les changements climatiques juste pour faire buzz. Mais tout ce que nous faisons doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés.
Cette semaine de la diplomatie climatique a été marquée, entre autres, par une simulation des négociations climatiques par les jeunes et des conférences publiques sur la gestion des déchets au Togo et sur l'agroécologie. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition a dénoncé hier la nomination de 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante qui doit organiser la présidentielle de 2020. Elle accuse le pouvoir de se tailler une série sur mesure. Eric Manirakiza.
Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS est une coalition des partis politiques et associations de la société civile. EDS, dans un communiqué, dénonce et condamne la démarche qualifiée de cavalière du gouvernement et son obstination à vouloir se tailler une commission électorale sur mesure. Cette coalition de l'opposition évoque les risques que fait peser sur la Côte d'Ivoire le refus de tout dialogue politique et la propension au passage en force du pouvoir. Pour EDS, le pouvoir RHDP s'arroge 11 des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante. Aucun membre du PDCI, principal parti d'opposition, ne figure dans cette commission. La crédibilité de la CI est cruciale en vue de la présidentielle de 2020, 10 ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3 000 morts.
Un groupe armé centrafricain signataire d'un accord de paix avec Bangui a affirmé jeudi qu'une de ses bases a été attaquée par la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, à Kouï, dans le nord-ouest du pays. Le général Siwo, porte-parole du mouvement Retour Réclamation Réhabilitation 3R, a indiqué à l'AFP que l'attaque a débuté jeudi matin et s'est poursuivie jusque dans l'après-midi avec des bombardements aériens, sans préciser le bilan des affrontements dans ses rangs. Le mouvement 3R fait partie des 14 groupes armés signataires le 6 février d'un accord de paix avec le gouvernement centrafricain qui a pour ambition de mettre fin au conflit qui déchire le pays depuis 2013. Le président Abdel Fattah al-Sissi, qui dirige l'Égypte d'une main de fer, a déclaré aujourd'hui ne pas être inquiet face à de possibles manifestations contre son pouvoir une semaine après des rassemblements similaires inédits ayant conduit à plus d'un millier d'arrestations. Au Caire et dans les grandes villes du pays, la présence policière a été renforcée, en particulier sur la place Tahrir, au Caire, épicentre de la révolte populaire de 2011 qui a chassé le président Hosni Moubarak du pouvoir dans le sillage du printemps arabe. La dépouille de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été transférée de sa résidence de la capitale Harare à son village natal de Kutama, dans le nord, en préparation de son enterrement prévu demain samedi. Ce transfert marque l'épilogue d'un bras de fer qui oppose depuis des semaines les proches de l'ancien chef de l'État au gouvernement de son successeur Emmerson Mnangagwa autour du lieu de sa dernière demeure. Mort le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour, Robert Mugabe devait initialement reposer au Panthéon national des héros de la lutte de libération à Harare, ainsi que le souhaitaient les autorités. Sa famille a finalement eu le dernier mot en obtenant qu'il soit enterré dans son village et le gouvernement a confirmé jeudi qu'il se conformerait à cette décision. À Washington, il est 7h07.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Afghanistan a déployé plus de 100 000 soldats et policiers pour protéger les bureaux de vote avant l'élection présidentielle de demain samedi, que les talibans menacent de perturber par des attentats suicides et des tirs de roquettes. 18 candidats s'affronteront lors du scrutin présidentiel, mais seul le président sortant, Ashraf Ghani, qui brigue un second mandat de 5 ans, et le docteur Abdullah, chef de l'exécutif, ont une chance de l'emporter. Le vainqueur aura un rôle essentiel en vue d'instaurer une paix durable avec les talibans et relancer les négociations entre les insurgés et les États-Unis qui ont été annulées par le président américain Donald Trump le 7 septembre. Poursuite ce matin à New York de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le programme d'aujourd'hui et les temps forts de la journée d'hier avec notre correspondante à New York, Dilly Dico.
Ce vendredi s'annonce plutôt calme sur le plan africain. La quatrième journée du débat général contraste avec les trois premiers jours au cours desquels les nombreux discours des présidents africains se sont succédés. Hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, venu s'adresser pour la première fois à la tribune des Nations Unies, a déclaré que le plus grand défi de son pays est celui de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Il a poursuivi en demandant une force onusienne moins pléthorique et plus efficace en RDC. Les deux priorités de son discours étaient la MONUSCO et la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Également jeudi, le vice-président ivoirien a pris la parole au nom du président Alassane Ouattara pour souligner l'importance d'une éducation de qualité qu'il a définie comme un investissement humain. Il a mis en avant la gratuité de l'enseignement de 6 à 16 ans et l'engagement de la Côte d'Ivoire à multiplier les infrastructures scolaires. Aujourd'hui, ce sera au tour du Soudan, du Cap-Vert et du Lesotho de représenter le continent. Au niveau international, le discours du Venezuela est attendu en début d'après-midi compte tenu des critiques faites par le président Donald Trump mardi dernier lorsqu'il évoquait les dangers du socialisme et la situation au Venezuela. À New York, Dilly Dico, VOA Afrique.
La France se prépare aujourd'hui à rendre hommage à Jacques Chirac au lendemain de la mort à 86 ans de son ancien chef d'État, un homme populaire lié à la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français. Sera organisé dimanche après-midi à l'hôtel national des Invalides où les Français pourront venir se recueillir auprès de son cercueil avant une journée de deuil national décrétée lundi. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.